L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Évasion. C'est l'émission locale Avoir 20 ans à Châteaulin, une émission proposée par les jeunes de la mission locale de Châteaulin. Bonjour à Aurélien, Steven, Scheherazade, Samuel, Virgile, Élise, Mélanie, Anaël, Luca, Marcus, Nolan, ça fait un petit monde. Comment vous allez ?
Ça va bien et toi ?
Ça va.
Châteaulin, ça rime avec une nécessité de se prendre en main.
Ça rime avec riverain. Après, c'est une ville que je dirais quand même qui essaye de se moderniser, qui a quand même pas mal de choses. C'est, comme avait dit Élise une fois, c'est une ville étudiante. Donc il y a quand même pas mal de choses à Châteaulin, mais il y a beaucoup de problèmes en fait à Châteaulin, niveau social, tout ça.
Châteaulin.
Avec pain. Les boulangeries, elles sont très bonnes. Aussi train. Je viens ici en train, le mardi.
Donc une émission de Châteaulin autour des 20 ans, ça permet de sujets de société qui nous touchent, nous, les jeunes qui ne sont pas dans les grandes villes. Parce qu'on parle souvent des jeunes des grandes villes qui sont dans leurs études, qui font la queue pour le crous, c'est des trucs comme ça.
Ça permet de parler de nous individuellement, puis de ce que ça représente pour nous de vivre à Châteaulin.
Aujourd'hui, on vous propose de parler donc de santé mentale, sujet parfois difficile mais qui nous touche tous, nous les jeunes, et sur un plan plus large, nos parents et nos proches. Comment allons-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous inquiète ? Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Qu'est-ce qui nous rend malheureux ? Sommes-nous plus sujets aux troubles psychologiques que nos parents ? Et le Covid dans tout ça, quel impact a-t-il eu sur nos vies ? 20 ans, on dit que c'est le plus bel âge de la vie. Pour en parler, nous avons invité deux professionnels. Monsieur David Morassi, coordinateur du point d'accueil d'écoute jeune, le PAEJ du Pays de Brest. Madame Emeline Brachet, psychologue clinicienne à Crozon.
20 ans, c'est le meilleur âge dans votre
vie. Ah bah oui, c'est là que tu fais le mieux, tu profites. Moi avant, à 20 ans, je travaillais, je jouais au foot, tu vois, c'est ça, c'est le must, quoi.
Ouais, c'est le meilleur surtout. T'es à quel âge aujourd'hui ?
J'ai 31 ans.
Ok, d'ac. Ok, et t'es pas mieux aujourd'hui
Si, c'est plus facile, tu vois, la vie est plus facile à 31 qu'à 20, mais bon. À 20 ans, tu t'amuses, t'as papa et maman derrière toi déjà.
Aussi.
Ah oui. Oui, et je ferais pas la même chose que de ce que j'ai fait, mais...
Okay.
Mais, bah oui, avec du recul, c'est vrai. D'accord. On voit les choses autrement, hein.
Est-ce que pour vous, 20 ans, c'est enfin, plus quel âge ?
Bonne question. Ah, c'est sûrement un âge qui est très sympa. L'avantage, c'est qu'à 20 ans, on a toute sa vie devant soi.
Et qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse de maintenant, d'avoir 20 ans maintenant ?
C'est sûrement compliqué parce qu'il y a le défi climatique et puis il y a toute l'intolérance qui monte un peu partout. Donc ça fait comme des murs assez compliqués à franchir. Après, moi, j'ai bon espoir parce que les jeunes sont toujours dynamiques et... Voilà, donc il faut continuer à s'amuser et puis à vivre.
D'accord.
C'est important.
20 ans, j'en ai un bon souvenir, mais bon, j'étais encore dans les études.
D'accord.
Mais après, j'ai passé de bons moments. 30 ans, c'était bien, 40 ans aussi. Là, j'ai 80 ans. je ne suis pas trop handicapée. Je n'ai pas trop de problèmes de santé, donc je trouve que c'est pas si mal que ça.
Pour moi, c'est pas le plus bel âge. Le plus bel âge, il commence maintenant. Là, maintenant qu'on a eu quelques années d'expérience, parce que c'est beaucoup d'expériences ratées, beaucoup d'erreurs, beaucoup de un manque de recul sur les relations, sur les gens avec qui on s'entoure, sur les choix faits dans les consommations, alcool, stup, enfin un tas de choses. Les choix sur, c'est une période ultra charnière et je pense que tous les gens qui ont eu 20 ans savent de quoi je parle et savent qu'à 20 ans, on patauge un petit peu et on a du mal à savoir où on va. Donc...
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
David Morassi, est-ce que vous avez des réactions à avoir par rapport à ce qu'on a pu entendre là comme témoignage ?
Alors moi, sur le plus bel âge de la vie, c'est compliqué à répondre de façon précise. Moi, personnellement, c'était une période... très chouette, très, on dit, un peu une période d'insouciance, un peu une période de voilà, où on pense à soi, où on vit les choses sans penser à l'avenir forcément, sans penser à, voilà, à des responsabilités, etc. Donc, en tout cas, moi, c'était il y a un petit moment. Et c'est des très bons souvenirs.
D'accord, ok. Émile Brachet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'était quoi pour vous, 20 ans? Est-ce que c'est le plus bel âge de la vie?
Je pense qu'on a tendance à idéaliser souvent dans l'après-coup la jeunesse. Je pense que c'est une expérience riche. Dans tous les cas, c'est une expérience qui s'inscrit dans toutes celles qu'on va faire au fil du temps. Et c'est intéressant d'entendre cette notion d'erreur, de se tromper, d'avoir l'impression d'être au carrefour, en fait. Au carrefour d'un futur oui. Et que c'est déterminant. Voilà, moi, mes 20 ans, là, maintenant, c'est intéressant d'être là parce que je vais avoir deux fois 20 ans. Moi, je me souviens d'une période d'entre-deux, effectivement, d'être dans les études de psychologie et de se poser effectivement beaucoup de questions, de faire de très belles rencontres aussi. Et c'était riche. Voilà, riche d'expérience, riche de plein de choses qui font la femme que je suis aujourd'hui.
D'accord, voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors avant d'aller plus loin dans la rencontre avec nos invités, je vais demander à toi Aurélien, quelle est la définition de la santé mentale selon l'OMS?
Alors la définition de la santé mentale selon l'OMS, ça se présente sous quatre tirets. Le premier tiret, c'est qui permet à chacun de réaliser son plein potentiel. Le deuxième petit tiret, c'est faire face aux difficultés de la vie. Le troisième petit tiret, c'est se sentir bien dans son travail et de faire les choses de manière productive. Et le dernier petit tiret, c'est qui nous permet à chacun de se sentir bien dans la communauté, s'intégrer, faire des bonnes choses, quoi. Et on retire deux choses, c'est que 15% des jeunes de 10 à 20 ans en France ont besoin de soins niveau mental. Et la dernière petite chose qu'on retient, c'est que le Covid a eu un effet sur la dépression des jeunes en 2021, des 18-24 ans, qui ont souffert de dépression contre 1 sur 10 en 2017.
D'accord, merci. Donc du coup, l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. On va pouvoir passer à notre interview avec Émeline Brachet, psychologue clinicienne basée à Crozon.
Bonjour Émeline Brachet, pour commencer l'interview, je vais vous demander pourquoi vous vous êtes intéressée au développement de l'enfant et de l'adolescent lors de vos études de psychologie.
Un petit peu de rétrospection donc. Pour reprendre, déjà je suis psychologue clinicienne, effectivement, psychologue du développement de l'enfant et de l'adolescent dans son milieu familial, social et culturel, ce qui montre bien en fait que moi ce qui m'intéressait, c'était le début de la vie, d'accord, qui est quand même effectivement... déterminant, je dirais pas il ne conditionne pas, mais il détermine. Pour moi, il y a une différence entre être conditionné et être déterminé à. Donc, sa vie dans son environnement, à cet enfant, va déterminer quand même dans une certaine mesure qui il va être en grandissant, quel adulte il va devenir, même si ça ne présage pas de ce qu'on va devenir en fonction de ce qu'on vit quand on est plus jeune. Ça, c'est important aussi et c'est très rassurant. Donc pour moi c'était du bon sens en fait de me tourner vers l'enfant. Je pense que c'était aussi une manière de mieux me comprendre au moment de vie où j'ai fait ce choix d'études, de mieux comprendre la famille, de mieux comprendre le monde, etc. Il y avait quelque chose aussi de soi, hein. Voilà.
Alors est-ce que vous avez ramené différents objets pour nous montrer votre métier, est-ce que ça représente?
Oui. Alors, j'ai choisi de ramener donc mon petit sac de langage des émotions et des besoins, parce que c'est effectivement comme ça que je travaille. J'aime bien ces outils. Donc, c'est des cartes d'images avec... justement, donc il y a des cartes où il y a toutes les émotions. Alors, enfin, peut-être pas toutes, mais généralement, quand on les met au sol, c'est ce que je fais en séance, pour permettre à la personne d'exprimer ce qu'elle ressent. De l'ordre de l'émotion, pas de la sensation, parce qu'avant, généralement, on travaille sur les sensations, mais celles-ci nous permettent de travailler sur les émotions. Et comme elles sont au sol, en fait, elles sont en dehors de nous, et pour une fois, en fait, ça évite qu'elles nous sollicitent de trop. On les voit en dehors, et on peut choisir, tiens, moi, je me sens comme ça, puis j'arrive plus à me sentir de cette manière-là. Alors avant, j'arrivais à ressentir ça, j'aimais bien ou j'aimais pas. Les autres, c'est des cartes de besoins, Donc ça reprend le besoin d'exploration, le besoin d'indépendance, le besoin, enfin voilà, vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, oui. Des besoins et des motivations, ben, les besoins physiologiques, effectivement, les besoins de sécurité, de corps, d'esprit, d'appartenance, de réalisation de soi, etc. Et plus on arrive à remplir ces besoins de base, et plus forcément on pourra aller vers ces besoins supérieurs. Donc ça aussi, ça permet de voir et puis de se dire comment je peux agir. Très, très importante. Question très importante dans la santé mentale, puisqu'on a dit, c'est la capacité justement à révéler son potentiel, à se dire, je peux avoir de la maîtrise et du contrôle. Souvent, on a tendance à rendre négative cette notion en disant, oui, t'es trop dans le contrôle, etc. C'est quand même essentiel de se sentir acteur de sa vie. Et souvent, on en reparlera au fil de l'interview, la santé mentale, la détresse psychologique, elle vient à ce moment-là, c'est-à-dire quand je vis en déséquilibre et que je ne me sens plus acteur, actrice.
Moi, j'avais peut-être une question, vous parliez de contrôle. Est-ce qu'on peut avoir un contrôle sur nos émotions, du coup? Parce que c'est super bien d'avoir ce genre de cartes, je pense, pour pouvoir les visualiser et les extérioriser physiquement sur du coup, le sol, comme vous dites. Donc ça doit être super intéressant. Mais est-ce qu'on a un contrôle sur ces émotions ou elles arrivent à nos dépens?
Est-ce qu'on a un contrôle? Est-ce qu'on doit avoir un contrôle? J'ai envie de dire non. C'est pour ça que je disais, en amont des émotions, l'émotion, c'est déjà quelque chose qu'on a intellectualisé. C'est déjà passé par le cerveau, on l'a déjà interprété, etc. Avant l'émotion, il y a quelque chose de beaucoup plus brut, dans le sens où c'est pas encore transformé, c'est la sensation corporelle. C'est elle, ça c'est mon petit indice à moi, qui fait que, j'ai mal au ventre, j'ai les muscles plutôt détendus, la boule dans la gorge, alors que j'ai quelque chose à dire à mon meilleur ami, et que j'ai plus de salive, etc. Ces sensations-là, elles, on ne peut pas les gérer.
Oui.
Clairement. Okay. Et on ne doit pas les gérer parce que, en fait, d'ailleurs, les gens, ils le disent, quand ils vivent un état dépressif, un épisode dépressif, des fois, soit ils ressentent beaucoup trop, soit ils ont le sentiment de ne plus rien ressentir. Ils me disent, c'est vide en moi, je ne ressens plus rien, alors qu'avant, il y avait du mouvement, ça vibrait dedans, etc. Donc, c'est important de ressentir. On ne veut pas annihiler les sensations, on ne veut pas annihiler les émotions, juste pouvoir les partager.
D'accord.
La colère, ça sert à repousser. La tristesse, ça sert à interpeller quelqu'un pour lui dire « je ne vais pas bien, aide-moi ». Donc c'est aidant. La peur, ça sert à être prudent, à savoir se mettre en sécurité. Ben, pourquoi on voudrait les annihiler? Elles nous sont utiles.
Mais des fois, elles peuvent être dans l'excès. Elles peuvent être incontrôlables.
Oui. Et là, effectivement, ce qu'on va essayer de découvrir, c'est... quelle est la situation autour de moi qui fait que, c'est peut-être dans mon environnement, c'est peut-être ce que je pense actuellement qui vient majorer mes émotions. Parce que si j'ai une sensation de mal de ventre et qu'en plus je suis en train de me dire « ça ne va jamais passer, c'est sûr que je vais y laisser ma peau, etc. », ça fait grimper la peur, ça fait grimper la sensation qui fait grimper et fait arriver une angoisse de mort. Et là, je me dis « je vais laisser ma peau. » Donc oui, là, à ce moment-là, il faut qu'on fasse redescendre un petit peu les sensations, toutes les alertes, quoi.
Pour continuer, quel est l'état de santé des jeunes aujourd'hui? Quel est votre avis là-dessus?
Pour moi, c'est quand même assez difficile de répondre à cette question. Je pense que ce ne sera pas objectif comme réponse. Parce que je vais répondre avec les jeunes que je vois au sein du cabinet, puisque maintenant je suis installée en libéral à Crozon. Là où je peux apporter un élément de réponse, et ça reprend ce qui était dit tout à l'heure, que depuis... les jeunes ont toujours demandé des accompagnements psychologiques, que ce soit directement, spontanément eux-mêmes, ou alors les parents qui demandaient parce qu'ils percevaient des changements de comportement, des changements émotionnels chez leur enfant, chez un ado, jeune, etc. Ce qui s'est majoré, à mes yeux, depuis quelques années, et on peut le relier effectivement à l'épidémie de Covid-19, c'est le trouble anxio-dépressif. Le niveau d'anxiété a clairement, à mes yeux, augmenté. les épisodes dépressifs aussi, oui, mais beaucoup plus l'anxiété. L'anxiété qui devient effectivement une entrave à la relation à l'autre, une entrave à l'insertion, enfin à l'insertion au milieu scolaire, à l'insertion dans la formation, enfin à l'interaction avec avec ce qui nous entoure. Ça, c'est vraiment et des anxiétés qui prennent des allures phobiques. Ça, moi, je trouve que c'est quand même assez nouveau. Ce qui me demande aussi pas mal de recherches parce que ben, c'était moins présent dans ma pratique auparavant. Alors après. Il faut dire que là, moi, maintenant, je travaille en milieu rural. Avant, je travaillais en milieu urbain. Ça fait que 2 ans que je suis sur Crozon. Avant, j'étais dans le Tarn-et-Garonne à Montauban, donc dans une plus grande ville. Après, je pense que, comme vous l'avez posé d'ailleurs comme question, hein, quelle est la différence d'être jeune en milieu rural et en milieu urbain, ben, nécessairement, les situations qui arrivent, les sujets qui sont abordés en séance ne sont pas tout à fait, je pense, les mêmes, selon l'environnement dans lequel on évolue.
Vous êtes à l'écoute de Radio Évasion, c'est l'émission locale animée par les jeunes de la mission locale de Châtelain et on parle de santé mentale chez les jeunes.
Je me sens bien quand mes amis et ma famille sont heureux, quand je reçois une bonne nouvelle, quand j'ai des sorties de prévues et quand je vois des personnes qui me sont chères. Quand je me sens bien, j'ai envie de sourire, de rire, de danser, de discuter avec des amis, de chanter et de profiter de la vie, quoi. Je me sens bien quand j'arrive à maintenir une bonne hygiène de vie. Et pour moi, ça passe par faire du sport régulièrement, manger sainement et prendre du temps pour décompresser. Je suis de ceux qui pensent que prendre soin de son corps, c'est également prendre soin de son esprit. J'apprécie donc particulièrement prendre du temps pour méditer, promener mon chien ou même simplement prendre une bonne douche. Ça m'arrive souvent de me sentir mal quand je pense au passé et aux regrets que j'en garde. Mais des fois, c'est l'avenir qui m'angoisse. Vous connaissez peut-être cette sensation d'être dans un cube qui se remplit d'eau, et parfois le seul moyen que je connais pour sortir de cet état, c'est de m'allumer à la beuh pour passer plus vite à la prochaine journée.
Je me sens bien quand je suis avec mes chiens car ils m'apaisent. Ils m'aident à me calmer. Avec eux, je peux être moi sans être jugée constamment. Être heureuse l'espace d'un instant. Ce sont les meilleurs amis, les plus fidèles et les plus aimants qu'on puisse avoir. Ils me consacrent tout leur amour, leur temps et surtout ils ne me trahissent jamais.
Je me sens bien quand j'écoute de la musique parce que ça me détend. Et je me sens pas bien par contre quand je m'ennuie, comme le temps il passe pas vite. Je me sens bien quand je pêche, parce que je suis au contact de la nature et ça me fait plaisir. Je me sens pas bien quand on me dit « dépêche-toi », parce que j'oublie toujours les choses. Je me sens pas bien quand par exemple je dois prendre la parole en public, ou que je passe un examen. De manière générale, je vis hyper mal le stress. Dans ces moments-là, rien à faire. Je subis et je me dis qu'une fois l'événement passé, bah ça ira mieux.
Je me sens mal lorsque l'avenir me semble flou. Du coup, ça me donne envie de rester cachée sous la couverture. Dormir pour que le temps passe plus vite. Je me sens mal lorsque je dois passer des entretiens, trouver un travail. Du coup, je repousse les recherches d'emploi. Je me sens mal lorsque je dois aller au contact des gens. Donc, je trouve un prétexte ou une excuse pour repousser les choses à demain.
Je me sens bien quand j'accomplis de nouvelles choses. Et pour ça, je teste beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris une nouvelle langue. Ou alors, j'ai commencé la musculation. J'ai aussi appris le développement web. Je me sens bien quand je découvre de nouvelles passions. À l'inverse, je me sens pas bien quand je fais rien. Donc pour éviter ça, j'écoute de la musique, ou alors je parle à ma famille ou à mes amis. Je me divertis l'esprit en gros.
Je me sens mal lorsque je dois aller m'acheter des vêtements, car le but est d'éviter le regard des gens. J'ai peur du regard que les gens vont m'apporter. Je me sens mal lorsque l'on me parle du Covid. Peur de devoir à nouveau rester enfermé, à devenir accro, ou tourner en rond, à ne rien savoir faire, donc éviter d'y penser est la meilleure solution, même si on n'y échappera pas.
De Radio Évasion, c'est l'émission locale animée par les jeunes de la mission locale de Châtelain et on parle de santé mentale chez les jeunes. Emeline Brachet, psychologue à Crozon, est avec nous pour en parler et est interviewée par Luca. Donc je te laisse la parole.
Bonjour, donc est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vous avez écouté, nous dire ce que ça vous inspire, ces témoignages ?
Enfin, ce que j'ai vraiment aimé, c'est d'entendre aussi ce que chacun pouvait dire de ses expériences plaisantes et aussi déplaisantes, malmenantes parfois. Et du coup, j'avais quand même envie de rebondir, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, on en reviendra peut-être. Tout à l'heure, on a parlé de la prévalence de l'anxiété, en fait, chez les adolescents et chez les jeunes. Et effectivement, ça me ramène à cette question de la performance et du regard de l'autre. Je crois que c'est vraiment une période de vie intermédiaire où les pères, les autres, sont tellement importants que ce qu'ils pensent ou ce qu'on imagine qu'ils pensent, c'est surtout ça d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on imagine qu'ils pensent, nous trouble, voire nous bouleverse, et nous donne parfois envie d'éviter le regard de l'autre ou alors d'aller le confronter. Enfin, on a des réactions très différentes face au regard de l'autre. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est abordé, effectivement, avec les jeunes, plus qu'avec tout autre âge. Alors, chez certains adultes, le regard de l'autre se maintient, effectivement, comme quelque chose qui peut être à la fois plaisant ou très, très gênant, voire même paralysant. Ça arrive. Et je pense que c'est important d'en parler assez tôt, en fait, de ce que ça nous fait, de ce qu'on a envie de réveiller chez l'autre, en fait, de ce qu'on a peur qu'il puisse penser de nous, quels sont les pires scénarios qu'on imagine, alors que généralement, ils ne se réalisent jamais. Mais ça nous trouble beaucoup. Voilà.
Moi, je veux bien réagir sur ce qu'Amine a dit là, parce que c'est, je la rejoins sur, effectivement, cette période de la vie où les pères, le regard des autres a un rôle très important. Et vient, en tout cas, des jeunes que nous on reçoit au point qu'ils écoutent jeunes, on voit comment ça peut impacter leur quotidien, leur façon d'être avec les autres, leur façon d'être face aux autres, et comment la réaction des autres peut aussi venir soit les mettre en difficulté, soit venir changer un peu leur comportement, alors que c'est des choses, certaines fois, qu'ils ne souhaitaient pas faire, mais sous le regard d'un groupe, sous le regard de personnes qui sont importantes autour d'eux, qui verraient un peu, voilà. Il y a ça, et puis moi il y a aussi, parce que là on parle de la santé mentale, la santé mentale aussi c'est du bien-être, et dans ce qui est dit, ce qui m'a interpellé aussi, c'est intéressant, c'est que dès qu'il parle d'aller à la pêche, d'aller faire des choses simples de la vie, de retrouver un peu des moments comme ça de plaisir simple, c'est important que ça soit dit, parce que je trouve qu'aujourd'hui on oublie ça. Aujourd'hui, effectivement, on est sur le regard des autres. Il y a une pression aussi de la société. Il faut avancer, il faut avoir un projet, il faut toujours aller de l'avant, mais se poser, faire des choses pour soi, de souffler, de faire des choses simples de la vie. Et on a tendance des fois à les oublier. Et je trouve que c'est ce côté positif aussi pour. On parle effectivement de difficultés, de souffrances psychologiques, etc. Mais aussi de faire des choses pour soi un petit peu simples, ça peut aussi aider à retrouver un peu de bien-être et de pouvoir avancer un petit peu dans la vie.
Emeline, est-ce que l'environnement a-t-il un impact sur la santé mentale ?
Vous posiez la question, est-ce que l'environnement rural, urbain a un impact ? Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je pense que oui, je pense que vous seriez plus à même finalement de témoigner de ça. Vivant à Crozon, on peut prendre en considération de toute façon les dimensions sociologiques, de quoi on est entouré. Il y a la nature, donc ça peut être quelque chose d'hyper plaisant. Enfin, il y a des activités effectivement auxquelles tout le monde n'a pas accès, et puis de manière assez rapide, des activités gratuites en plus. Hein, donc je me dis que c'est aussi une opportunité de vivre des choses qui peuvent peut-être pas se vivre dans d'autres milieux urbains. Par contre, comme tout, j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que je crois savoir qu'au niveau des transports, c'est pas toujours évident, que ça peut mettre effectivement le jeune dans une situation de dépendance par rapport à ses parents ou par rapport aux adultes, et que ça peut être un peu frustrant, ou ça lui demande des plans d'action déjà bien élaborés pour pouvoir s'extirper de son environnement. Je vous laisse le témoignage finalement de se dire qu'est-ce que vous ressentez de vivre à la campagne ou de vivre à la ville.
Alors moi je peux peut-être répondre à la question. Il se trouve que j'ai passé 17 ans de ma vie en région parisienne et que j'ai emménagé ici il y a 6 ans, donc je peux pas forcément témoigner de des problèmes que peuvent avoir les jeunes dans les grandes villes ou dans les quartiers, mais je pense qu'on n'a pas forcément du coup les mêmes centres d'intérêt, le même vécu, les mêmes interprétations du monde. Il y en a qui préfèrent se fondre dans le moule, dans la masse, et qui vont du coup beaucoup absorber ce qu'ils ressentent. Il y en a qui au contraire vont avoir besoin de s'introspecter. Et d'un côté, j'ai l'impression que à la campagne, avec tout ce milieu rural, comme vous disiez, c'est super parce qu'on est en contact avec la nature, on peut s'ancrer, se recentrer, se poser des questions, tout ça. Mais c'est aussi, pour moi, connoté d'isolement, parce que si on ne peut pas se transporter comme on veut et qu'on est dépendant de voitures, ou alors qu'on a un pur mal-être. Moi, je sais que je vis au milieu de nulle part avec des chèvres et des vaches. On peut se sentir très seul des fois, même si ça fait du bien. Donc voilà, c'est ça que je peux en dire.
Est-ce que les jeunes viennent vous consulter spontanément ou est-ce que c'est compliqué?
Il y a des jeunes qui le font spontanément. Mais auquel il faut des ressources, hein, parce qu'il faut aussi avoir en tête que même si aujourd'hui et depuis le Covid, la santé mentale, c'est une priorité, une question de santé publique, de santé générale, et qu'aujourd'hui, en fait, on peut avoir accès aux soins psychologiques si les psychologues ont choisi de s'inscrire, en fait, dans la convention, donc mon psy. Et donc il y a un remboursement par la sécurité sociale sous des conditions aussi tout à fait particulières qui ne conviennent pas à tous les professionnels. Clairement, moi je fais partie des psychologues qui ne sont pas conventionnés. Est-ce qu'ils ont besoin de leurs parents pour pouvoir consulter? Donc malgré tout, les parents ils restent dans la boucle à cet âge là et parfois c'est les parents qui font la demande. Ou alors c'est le jeune qui le fait, mais en ayant le soutien familial. Et donc, il faut quand même le soutien de l'environnement à ce moment-là.
Est-ce que vous pensez qu'on puisse dire qu'il y a un avant et après Covid ?
Donc oui, il y a un avant et un après. En psychologie, on parlerait d'un potentiel traumatogène, en fait, justement parce qu'il y a un avant et un après. Et que pour faire face à cette situation qui était impensable, imprévisible, et pour laquelle on ne savait pas combien de temps ça allait durer, il a fallu déployer pour chacun, avec les ressources possibles, à la fois individuelles et collectives, des stratégies d'adaptation très très importantes et parfois très coûteuses pour certaines personnes ou même pour certains groupes familles. Et là, oui, bien entendu, ouais, ça a une incidence sur la santé mentale et la détresse psychologique. Et le niveau de détresse psychologique, il a été beaucoup plus important à la fois durant le Covid et aussi après. Et on ne sait toujours pas quelle incidence ça aura sur les générations à venir, sur les petits-enfants. C'est-à-dire que vous qui avez 20 ans aujourd'hui, quand vous avez traversé cette période de Covid, si je ne dis pas de bêtises, vous étiez errant ?
Alors, on n'a pas tous les mêmes âges. Moi, je sais que j'ai eu 20 ans pendant le confinement et qu'on me disait, alors, ça fait quoi de vivre la meilleure année de ta vie confinée ?
Voilà.
Donc, rien que ça, la pression. Donc, on avait entre 18 et 22 ans, même plus jeune. Donc, c'est pas vraiment évident. C'est le moment où on dit oui. Moi, je venais d'avoir mon permis, par exemple.
Oui.
Ah, super, j'ai une voiture que je ne vais jamais utiliser, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Voilà.
Ouais, cette impression de fin du monde, de la fin de quelque chose. En fait, si tu voulais interagir.
Non, juste perso, moi je l'ai bien vécu. J'avais genre 16-17 ans et j'étais confiné avec un pote, donc le prime de ma vie vraiment. tout le monde l'a pas vécu de façon traumatisante.
Oui, tout à fait. Non, mais soyons bien d'accord. Effectivement, c'est pas traumatique pour tout le monde. Par contre, on a dit ça a une valeur en fait, parce que. Parce qu'effectivement, il y a quand même, à un moment, une perte. C'est-à-dire une perte de lien, une perte de repère. Moi, ce que j'ai pu voir par rapport aux questions que vous posez tout à l'heure, les effets de la Covid-19 sur les jeunes. Donc, les jeunes, c'est défini par l'INSEE de 15 ans à 29 ans même maintenant. Ils ont repoussé la tranche d'âge des jeunes. Puisque l'accès à l'emploi, à la formation
est
retardé. En même temps, soyons bien d'accord, je vais dégraisser, sachez-le, je ne vais pas retrouver mes idées. Soyons bien d'accord, finalement, le fait que la jeunesse soit élargie jusqu'à 29 ans, c'est en cohérence avec l'espérance de vie, hein, parce qu'on vit beaucoup plus vieux, donc finalement, c'est assez cohérent, hein, il n'y a rien de grave. Donc oui, la COVID-19, elle a eu des répercussions parce que c'est une perte. Et que c'est une perte de plein de... C'est une expérience de perte. Donc forcément, c'est une expérience de deuil à un moment donné. Et elle n'a pas eu le même effet sur ceux qui étaient au collège. Et qu'à ce moment-là, il a fallu retrouver, maintenir un équilibre, effectivement, à la fois physique, psychologique, spirituel, social. Et que finalement, comme tu le dis, le soutien perçu à ce moment-là, il a dû être déterminant. Les liens avec qui on était confinés, c'était déterminant. Mais on a vu aussi qu'il y avait une augmentation de la violence intrafamiliale, on a vu qu'il y avait une augmentation des violences conjugales, on a vu qu'il y avait une augmentation des violences sexuelles aussi, clairement, que depuis la Covid-19, il y a énormément effectivement d'associations qui se sont créées, justement pour veiller à ce que chacun puisse retrouver une sécurité, un sentiment de sécurité, du soutien, du bien-être, un sentiment d'épanouissement personnel.
Alors, je vous remercie beaucoup, Émine Brachet. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec une musique sélectionnée par Mélanie. Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix de chanson, comment elle s'appelle et pourquoi on la met ?
Alors, on va écouter La peur de l'échec de Relsen dans l'album Perdu d'avance. Et j'ai choisi cette chanson parce que je pense qu'elle a des paroles qui peuvent être peut-être choquantes et très crues, mais je pense que c'est une chanson que beaucoup de personnes s'identifient dans des périodes difficiles. Et je pense que rien que le titre de l'album est assez parlant, Perdu d'avance, parce que quand on est jeune, on peut avoir ce sentiment-là des fois. Et je pense qu'il y a un message aussi derrière de la part de Relsen de nous faire comprendre qu'en vérité, c'est pas tant perdu d'avance, puisque lui-même a réussi à succéder derrière.
Parce que c'est un album assez ancien, c'est pas un de ses récents.
Non, c'est son tout premier, ça date de 2009.
D'accord.
Et il a fait un bout de chemin depuis.
Oui.
Mais c'est un petit peu aussi pour nous les jeunes, en montrant cette part de désespoir qu'on peut avoir et toute cette pression qu'on peut avoir. Mais peut-être que derrière, on peut faire nous-mêmes notre propre bout de chemin.
Mais ça véhicule l'espoir, donc, un petit peu.
Oui, j'aimerais qu'on voit ça aussi derrière.
D'accord, donc on écoute tout de suite La peur de l'échec d'Orelsan.
J'ai peur de jamais finir mon album. J'ai plus d'inspi, de toute façon j'ai plus envie de devenir chanteur. J'ai plus qu'un speech. Quand je regarde mes clips, je trouve que je fais pitié. Ce que je raconte dans mes chansons, c'est des clichés, c'est pas la vérité. La célébrité me fait peur. J'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs. Au fond, je m'en bats pas les couilles de ce que disent les gens. Je me perds entre ce qu'ils attendent de moi et ce que je suis vraiment. Tous les jours, je fais l'acteur. Je fais semblant. Je maquille la peur en plaisantant. Je perds mon temps à me poser des questions au lieu d'agir. J'ai peur de la dépression. J'ai peur de l'avenir et ses déceptions. Plus je grandis, plus le temps passe et plus je suis déçu. Sous l'emprise de l'angoisse des futures blessures. Plus je me cherche des excuses, plus je m'enlise. Je m'enivre de négativité et je me sens vivre. Souvent j'ai peur de l'ennui. J'ai peur d'avoir aucune raison de me plaindre. Pourtant je me sens triste tout le temps. Je me sens vide. J'ai peur d'être normal, d'être moyen. Ni trop mal, ni trop bien. Je crois que je sers à rien. J'ai peur de mes proches parce qu'ils connaissent mes faiblesses. Mes talons d'Achille. Ils savent à quel point mes fondations sont fragiles. Ils me font confiance pour l'instant. Mais quand je les décevrai, ils seront près de moi, prêts à frapper les premiers. J'ai peur que mes parents me détestent. Depuis que j'ai 13 ans, je régresse. Je les blesse, je les stresse. Je délaisse ce qu'ils m'ont appris pour faire que de la merde. Comme si je valais mieux que mon père. Comme si je valais mieux que ma mère. Je crois qu'ils m'aiment, moi, je crois qu'ils se voient de la face. Je crois qu'ils aiment celui qu'ils rêvent de voir à ma place. Parce qu'ils savent pas ce qui se passe derrière le masque, qui se cache derrière l'image. Parce qu'ils connaissent pas mon vrai visage. Quand je dis que je déteste les filles, je me donne du crédit. Je me suis jamais vraiment investi. J'ai fui, j'ai triché sur mes sentiments en croyant rester vrai. J'ai esquivé l'amour par peur de me faire baiser, par l'acheter. Je croyais plus je m'attachais, moins ça marchait. J'ai trahi, j'ai sali, j'ai haï, j'ai banni. Qu'est-ce que j'ai acquis à part des remords et des maladies? Rien, à part la peur de rester seul toute ma vie. Je crois un peu en Dieu mais pas vraiment. J'irai avec les mécréants. Quand je partirai les pieds devant, j'ai peur d'être attiré par le néant. Je me sens tellement bien dans la noirceur, je me sens dans mon élément. J'ai comme envie de sauter dans le vide, de me passer la corde au cou, de me noyer, de m'entailler les veines du coude au poignet. J'ai comme envie de me mettre une balle dans le crâne, mais j'ai pas de flingue. Regarde-moi dans les yeux, tu comprendras que je suis qu'une balle tringue. J'ai peur de perdre. J'ai peur de l'échec. J'ai peur de perdre. J'ai peur de l'échec. Peur de l'échec.
À l'écoute de Radio Évasion, c'est l'émission locale animée par les jeunes de la mission locale de Châtelain et on parle de santé mentale chez les jeunes. David Morassi, vous êtes coordinateur au PAEJ du Pays de Brest. Qu'est-ce que c'est le PAEJ ?
Alors nous, on est un lieu d'écoute, un lieu de prévention. D'accord. Pour les jeunes de 11 à 25 ans. Donc c'est un lieu anonyme, gratuit et confidentiel où un jeune peut venir quand il a une question, une difficulté, un mal-être, quel qu'il soit. Donc nous, on est sur une entrée généraliste, c'est que toute question qu'un jeune se pose, toute difficulté qu'il peut avoir, il peut venir rencontrer un professionnel du PAEJ, donc de façon libre et sans engagement.
D'accord.
Ça, c'est important pour nous parce que en fait, voilà, on sait très bien que notamment sur cette tranche d'âge-là, de mettre des obligations, des choses, ça permet à un jeune de pouvoir venir faire des allers-retours si besoin. C'est-à-dire qu'il peut rencontrer une fois un professionnel du PAEJ, il ne peut ne pas revenir. Il peut décider d'arrêter, il peut décider de continuer.
C'est un aspect rassurant, voilà. Du coup.
Il peut décider de faire une pause, il peut décider d'espacer un entretien tous les mois. Il peut, voilà, il y a toutes les possibilités. Nous, on s'adapte à chaque situation.
D'accord.
Pour nous, chaque jeune est à une situation particulière.
Ouais.
Et voilà, donc il n'y a pas, voilà, c'est quelque chose à sens. Il n'y a pas de côté institutionnel avec une prise de. On doit s'inscrire quelque part, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de, si le jeune ne revient pas, il ne revient pas, c'est lui qui décide en fait.
Donc le jeune a assez de liberté en fait,
c'est lui qui
peut choisir quand venir, quand il se sent de venir, et il y a ce côté aussi gratuit qui doit être vraiment intéressant et qui du coup se détache un peu de ce côté de dépendance si on est en manque d'argent en tant qu'étudiant par exemple.
Alors ça, c'est pas la première chose qui, en tout cas chez les jeunes qu'on reçoit, qui est importante, c'est effectivement le fait d'être un peu acteur et d'avoir le choix.
D'accord.
Voilà. Je trouve, oui. Et d'autant plus aujourd'hui, on en reparlera peut-être après, d'avoir le choix de décider un peu des choses, d'avoir le choix de venir ou ne pas venir, de déposer des choses ou de ne pas déposer des choses.
D'accord.
C'est pareil. En tout cas, c'est d'accueillir. Nous, c'est le principe, c'est d'accueillir un jeune, d'accueillir la parole du jeune, de faire ce qu'il est et de pouvoir avoir un temps où il puisse se poser et parler de lui, parler de ce qui est difficile sur le moment. Et de pouvoir un peu en échanger.
Bonjour David, est-ce que vous nous avez apporté un objet ?
Alors j'ai apporté mon téléphone, parce que en fait, c'est en lien avec cette mission du PAEJ où on parle de l'écoute, mais on parle surtout d'accueillir la parole,
D'accord.
la parole du jeune. C'est quelque chose qui est vraiment central pour nous, d'accueillir le jeune avec ce qu'il est, et de lui permettre en tout cas, sans jugement, sans regard négatif, de pouvoir qu'il puisse euh, qu'il puisse amener les choses qu'il souhaite, qu'il puisse dire ce qu'il est, qu'il puisse dire ce qui ne va pas, qu'il puisse dire les choses de son prisme à lui, et de pouvoir le dire sans un regard jugeant ou négatif, et de pouvoir vraiment donc c'est quelque chose d'important de partir de ce qu'il est lui pour pouvoir en échanger, pour pouvoir essayer de détricoter un peu des difficultés qu'il a sur le moment.
Est-ce que vous prenez également des consultations téléphoniques ?
Alors, le principe premier du point avec Google Jeune, c'est l'accueil en face à face. C'est le principe. Voilà. Alors, depuis le Covid, on a aussi, nous, fonctionné un peu différemment, parce que comme il y a eu cette pause, notamment de la première pause de 2 mois, là, où on avait des suivis de jeunes et donc on ne pouvait plus les voir. Donc on a dérogé un peu nos principes de base et on a ouvert à des entretiens téléphoniques. Ce qui a permis de garder du lien avec certains jeunes durant ces périodes-là. Ce qui a permis vraiment. Donc c'est des choses qu'on a réfléchi ensuite. On s'est dit, gardons cette porte ouverte, même si ce n'est pas le principe général des PEJ. Mais dans certains cas, dans certains jeunes, on parlait tout à l'heure la ruralité, l'isolement, de difficulté de se déplacer. Donc c'est des choses qu'on peut proposer de façon ponctuelle à certains jeunes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont des difficultés du moment à être dans la rencontre en face à face, de pouvoir éventuellement venir sur un entretien ou deux, pouvoir un petit peu avoir cette possibilité-là. Sachant qu'en parallèle, il y a un autre service qui s'appelle Passage, de l'association parentèle, qui a ce rôle-là.
D'accord.
Sur le département. C'est un lieu d'écoute à distance, qui utilise en tout cas le téléphone, les SMS, les mails, tout ce qui est numérique à distance, avec des psychologues qui peuvent faire des entretiens avec des jeunes à distance. Donc,
quelle est votre impression sur l'état de santé mentale des jeunes aujourd'hui ?
De notre regard à nous, il y a eu effectivement un impact aujourd'hui, sachant que nous, depuis 2020, depuis l'après-Covid, on a eu une augmentation de 40% des jeunes qui viennent au point accueil écoute jeunes, quelles que soient les antennes sur le Finistère. On a doublé le nombre d'entretiens avec aujourd'hui des problématiques un peu plus importantes, un peu plus complexes pour les jeunes. On pouvait avoir des choses un peu plus légères avant. On est sur un accueil généraliste, donc des fois des jeunes qui venaient suite à une rupture amoureuse, qui étaient un peu en difficulté par rapport à ça, sur des petites difficultés relationnelles entre pairs. Voilà. Et aujourd'hui, on a des choses beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, là, notamment la souffrance psychologique, on parlait un petit peu de la rupture qu'il y a eu au niveau social, de cet arrêt à un moment donné, de se remettre en mouvement pour réintégrer un groupe, réintégrer un collège, un lycée, réintégrer une formation. Ben, c'est plus difficile aujourd'hui. Et donc, il y a aussi ce côté un petit peu... aussi au niveau de la société, au niveau de un petit peu de l'environnement qui est quand même compliqué, hein, que ce soit l'environnement social, l'environnement économique, l'environnement écologique, toutes ces choses qui impactent aujourd'hui. On voit aussi que ça a des impacts importants et que les jeunes se posent beaucoup de questions et notamment sur l'avenir. Pour eux, l'avenir, pour beaucoup, en tout cas sur ceux que nous on reçoit, ils regardent juste à demain et ils ne vont pas forcément vouloir se projeter un petit peu plus loin parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce qu'elle va être notre avenir.
Alors en parlant du fait de se projeter, que les jeunes ont du mal à se projeter dans l'avenir, voire dans 2 jours, c'est intéressant que vous en ayez parlé parce qu'en préparant cette émission, on s'est posé une question. Comment on se voit dans 10 ans? Et du coup, je vous propose d'écouter nos réponses tout de suite.
Comment tu te vois dans 10 ans? Il n'y a aucune idée pour l'instant. Habiter à Quimper. Pourquoi Quimper? Il y a des personnes qui sont ici et je préfère pas rester sur Châtol avec des personnes infréquentables.
Comment tu te vois dans 10 ans? Je sais pas non plus. Là, c'est la bonne question. Peut-être dans 10 ans, je me verrai bien dans un travail que j'aimerais bien, voilà. Ça, je sais pas trop, dans 10 ans, c'est... Je sais pas trop comment répondre à cette question.
Comment tu te vois dans 10 ans? Moi, c'est une question compliquée parce que j'aime pas prévoir l'avenir et parce que je n'aime pas aussi partager mes projets dans le doute qu'ils ne se réalisent pas. Donc ça, c'est purement personnel, mais j'aimerais réaliser des projets... personnel, professionnel en particulier. Également, sur l'aspect artistique, j'aimerais bien pouvoir développer certains trucs. Avoir plus de connaissances en disant j'espère être plus mature. Et j'espère être toujours en vie aussi. Et j'espère... j'espère avoir une forme de stabilité et... C'est pas parce que je me dis j'aurai 32 ans, donc je serai encore jeune, mais j'espère en fait que j'aurai bien grandi et que j'aurai bien évolué mentalement et que j'aurai accompli plein de choses dont je serai fière en fait.
Alors moi, c'est une question qu'on m'a souvent posée pour essayer de relativiser, de positiver, mais je la déteste cette question. Parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir parce que ça me fait peur. Comme j'ai du mal à me projeter dans le présent. Donc déjà, j'aimerais bien savoir ce que je veux faire maintenant, ce que j'aime faire maintenant, profiter du maintenant, avant de pouvoir imaginer un après. Mais en général, j'aimerais bien... en fait, le principal pour moi, ce serait d'être épanouie dans ce que je fais, que ce soit personnel ou professionnel. Et vu que pour moi, aujourd'hui, la musique, c'est très important, je vois qu'aujourd'hui, je peux avoir des opportunités dans la chanson que je n'ai pas forcément pu avoir avant. J'aimerais bien en avoir toujours dans 10 ans, quoi. Mais à part ça, moi, je veux juste être bien maintenant, déjà.
Ok. Je ne me projette pas forcément, mais en même temps, j'ai des attentes. Et je sais que ça dépendra de mes choix, etc. Mais de toute façon, j'ai confiance. Et comme je l'ai dit, dans des petites montagnes en Suisse, là, dans un petit chalet, genre... Et faire de la musique ou des trucs comme ça, faire des projets, ça dépendra mais les projets que j'aurai dans les années 30, hein, mais genre des projets que j'aurai, ça peut être n'importe quoi, mais pas forcément la réussite, mais tant que j'essaye, bah ça va. Donc je me projette en bien.
C'est dur aussi. Hein. Je me vois. En fait, j'ai du mal à me voir tracer. Je me vois pas suivre un seul chemin, en fait. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire que je me vois pas suivre une ligne et arriver dans 10 ans. Il y a 50 lignes et puis faut en choisir une et c'est ça le plus dur, quoi. Et j'aime pas trop parler de tous mes projets parce que ça peut être un peu idéaliste. Et puis, par exemple, mon entourage, ma famille, tout ça, c'est pour ça que je préfère pas leur dire... qu'est-ce que je vais faire, tu vois.
Peur de décevoir?
Ouais, un peu aussi. Mais surtout moi, en premier, quoi. De me décevoir, moi.
Alors du coup, vous avez entendu nos témoignages et vous avez, je pense, pu constater dans nos réponses que nous sommes très, très incertains. Est-ce normal d'avoir du mal à se projeter dans l'avenir? Donc je vous pose la question à tous les deux. On va commencer par vous, David. Est-ce que c'est normal de ne pas savoir? Est-ce qu'on est les seuls ou on est plusieurs à être dans ce cas-là?
C'est une question difficile à répondre. est-ce que c'est seulement les jeunes? Je ne pense pas aujourd'hui. Hein. Je pense que le contexte aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a du mal à se projeter. Alors moi, ce que je voudrais surtout rebondir, c'est sur, effectivement, c'est ce que j'avais dit avant, hein, cette difficulté aujourd'hui des jeunes à voir plus loin que le lendemain. Moi, c'est surtout dire qu'aujourd'hui, moi, je crois en la jeunesse. Je crois en cette jeunesse et c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Parce que vous avez du potentiel, vous avez des capacités, vous avez des qualités, vous avez plein d'idées. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, en tout cas, moi, ma place, c'est d'essayer, sur les moments où je rencontre des jeunes, de pouvoir essayer de les rassurer un petit peu, leur dire, si, tu peux faire. Oui, il y a des possibilités. Oui, l'avenir, il peut être beau, mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais même si c'est pas facile, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses arriver à ce que ça soit un petit peu moins difficile pour le moment et qu'un jour, ça soit...
plus beau.
Ça soit plus beau.
Et ça peut être une forme de beauté, que ce soit pas si simple tout le temps aussi. Emeline, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet?
Eh bien, bravo, parce que c'est très émouvant, c'est très beau. c'est très beau d'avoir pu mettre en mots en fait ce qui est important pour chacun de vous. Là aussi c'est chouette, ça parle des exigences de soi à soi, des exigences des autres, etc. Conscientes et inconscientes d'ailleurs. Donc sur ça, vous avez tout juste, vous avez tout compris. Enfin, bien sûr que ça existe, c'est pas un mythe. Hein. Il y a des exigences, il y a des attentes, etc. Et des fois, ça met un peu la pression. Donc c'est bien normal ce que vous ressentez. Soyez idéaliste, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est source de tellement d'espoir, de créativité, de curiosité, etc. Donc, vous empêchez pas d'être idéaliste. Enfin, après, je dis ça, mais je suis une grande idéaliste. Et je souhaite le rester très, 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 très longtemps. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que j'entends que chacun fait de son mieux. Et je sais pas si vous connaissez un peu les accords Toltec, mais dans les accords Toltec, ils disent des fois, ton mieux, il est très haut. Dans ce cas-là, quand tu sens que ton mieux est très haut, fais tout ce que tu peux et donne toute l'énergie que tu as. Et puis d'autres fois, ton mieux, il est un peu plus bas. Et dans ce cas-là, fiche-toi la paix. Et moi, j'aime bien cette manière de voir la vie aussi.
Donc du coup, merci de nous avoir écoutés et de s'être questionné avec nous. Je vais remercier tous les jeunes de la mission locale de Châtelain et ceux présents aujourd'hui, parce qu'il y en avait aujourd'hui aussi qui n'étaient pas là. Donc merci à Aurélien, à Steven, à Sheherazade, Samuel, Virgile, Élise, Mélanie, Anaël, Luca, Marcus, Nolan, Marie. Je voudrais aussi dire merci à Sylvia Mélin, qui est conseillère en insertion socio-professionnelle à la mission locale de Châtelain et qui nous a permis de travailler en projet avec Radio Évasion. Merci bien entendu à Emeline Brachet, donc psychologue à Crozon, et à David Morassi, coordinateur du point d'accueil Écoute Jeune du Pays de Brest. Et enfin, merci à Radio Évasion pour la préparation de l'émission. C'était Salomé à la présentation.
Moi, je déboule au tournant, au centre de tous les tourments, sur le rond-point sans clignotant. Tu sais, moi, j'ai plus 20 ans, je suis pas non plus une enfant, et encore moins une maman. Il paraît que j'ai plus 20 ans, je te remercie, je suis au courant. Tu sais, moi, j'ai plus 20 ans. Dis-moi où va-t-on. Tu sais, moi, j'ai plus 20 ans. Dis-moi où va-t-on. En fait, j'ai plutôt 100 ans. La vie nous vole des instants comme un pickpocket en passant. Je dis pas que c'était mieux avant. Je dis juste, c'est pas évident de dépasser l'âge qui plaît tant. Tu sais, moi j'ai plus 20 ans et je trouve le temps insolent de seulement me prévenir maintenant. Et pareil que j'ai plus 20 ans, je vous remercie, je suis au courant. Tu sais, moi j'ai plus 20 ans, dis-moi où va-t-on. Tu sais, moi j'ai plus 20 ans, dis-moi où va-t-on. Passé, je préfère l'avenir, les sourires qu'il me soutire, il me protège sans rien dire. Mais moi j'ai plus 20 ans, ça commence à se voir vraiment, selon les jours ça dépend. C'est le balai incessant, va-t-elle déposer le bilan, enfin c'est ce que pense l'agent. Mais moi j'ai plus 20 ans, je te remercie, je suis au courant. Tu sais, moi, j'ai plus 20 ans. Dis-moi où va-t-on. Tu sais, moi, j'ai plus 20 ans. Dis-moi où va-t-on. Plus 20.